Donc nous allons reprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rodolphe Dos Santos. Rodolphe a été professeur à l'Université de Strasbourg. Il est toujours au Bureau d'économie théorique appliquée, au BETA, Strasbourg. Et il a écrit à la fois sur la théorie économique, enfin théoricien, et sur l'histoire de la pensée économique. Et donc aujourd'hui, il va nous dire pourquoi Keynes, ou jusqu'à quel point Keynes est de retour. Merci Rodolphe d'avoir accepté.
Merci Roger. Bien, bonjour. Keynes est un personnage suffisamment intéressant pour qu'il mérite d'être rappelé à notre bon souvenir, indépendamment du rôle majeur qu'il a joué comme théoricien de l'économie. Mais ce n'est pas à d'autres activités de Keynes qu'on va s'intéresser, mais évidemment à celle à l'auteur de la théorie générale de l'emploi, intérêt et de la monnaie, qui est certainement un des ouvrages majeurs les plus importants du siècle dernier. Pour quelles raisons? Il est clair que, entre autres choses, cet ouvrage a marqué la politique économique qui a été pratiquée dans la période connue sous le nom des Trente Glorieuses, une période qui va en gros de la fin de la guerre jusqu'aux début des années 70, et qui a exercé effectivement un effet, une influence très importante. C'est un ouvrage où il y a des idées de politique économique, mais je ne vais pas m'intéresser particulièrement à ce qu'on a appelé le keynésianisme, c'est-à-dire l'idée que quand il y a du chômage, il faut faire de la relance, y compris en faisant du déficit budgétaire, et que tout ira mieux si on fait de la relance, etc. Ça, c'est la vision qui est très répandue de ce qu'est le keynésianisme. Je vais m'intéresser à Keynes à un autre niveau, en tant que théoricien de l'économie, avec des préoccupations politiques, certes, mais en tant que théoricien de l'économie. On trouve bien le mot « théorie » dans le titre, et le mot « théorie » est important. Il a écrit toute une série d'ouvrages avec des titres qui sont très différents, des titres qui sont accrocheurs, « Les conséquences économiques de la paix »,« Les conséquences économiques de Mr. Churchill », etc. Des ouvrages souvent polémiques, avec des idées théoriques aussi, mais là, on est vraiment dans la théorie. Et en rapport, évidemment, avec ce qui était en train de se passer dans les années 30. Alors, pour bien situer ce qui était le projet keynésien, il est commode de se référer à un passage d'une lettre qui est très connue, une lettre qu'il a écrite en 1935 à George Bernard Shaw, et où il dit... Il faut que vous sachiez que je suis en train d'écrire un livre sur la théorie économique dont je crois qu'il va largement révolutionner, je suppose pas tout de suite, mais au cours des 10 prochaines années, la manière dont le monde pense les problèmes économiques. Donc il a la notion de ce que peut être l'ampleur de l'ouvrage qu'il est en train d'écrire. Il a aussi la notion que ça ne va pas avoir un effet tout de suite, ce qui est vrai. Bon, de toute façon, il y a eu la guerre peu de temps après, et que l'influence va venir plus tard. Il est intéressant aussi de se référer au premier chapitre très court de la théorie générale, où il explique la nature du titre et de son projet. J'ai appelé cet ouvrage « La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie » en plaçant l'accent tonique sur le préfixe « général ». Je vais développer l'idée que les postulats de la théorie classique qui sont applicables à un cas spécial seulement et pas au cas général. La situation que la théorie classique suppose étant le point limite des positions possibles d'équilibre. Donc il a l'idée de généraliser ce qui était la théorie d'un cas particulier, un peu comme Einstein aurait généralisé l'apport de Newton, le principe de relativité appliqué par Newton, galiléen. En plus, les caractéristiques de ce cas spécial, supposé par la théorie classique, sont, ne sont pas ceux de l'économie, de la société économique dans laquelle nous vivons réellement, avec le résultat que son enseignement induit en erreur est carrément désastreux si nous tentons de l'appliquer au fait de l'expérience. Donc voilà une proclamation, un programme qui est un programme important, la généralisation de ce qui doit être traité dorénavant comme un cas particulier. Mais on ne va pas tout à fait le prendre au sérieux, et dès 1937, un auteur qui a beaucoup fait pour diffuser le keynésianisme, qui est John Hicks, qui a introduit le fameux modèle ISLM, qui a été le béaba de tous les étudiants d'économie en macroéconomie pendant des années et des années. J'appartiens à cette génération. John Hicks va, l'article où il a introduit ce modèle ISLM, va faire une affirmation qui va être importante, c'est que la théorie générale de l'emploi est l'économie de la dépression. Au lieu d'avoir une théorie générale, nous avons une théorie d'un cas particulier qui est la situation de dépression. Et cette réponse aux prétentions de Keynes va être courante. Ici, c'est la dépression. D'autres fois, on va dire Keynes, le modèle keynésien, c'est le cas particulier où il y a rigidité des salaires et des prix. C'est le cas particulier d'une économie de ce qui se passe dans la conjoncture, mais à long terme, ça ne s'applique pas, c'est simplement un cas particulier. Donc, cela va revenir et cela va être incorporé dans l'idée d'une synthèse néoclassique où, justement, le modèle keynésien a sa place, mais seulement sa place. Et le terme de synthèse néoclassique a été introduit, paraît-il, je n'ai pas fait des recherches très, très poussées sur la question, par Paul Samuelson en 1955, où il dit dans son ouvrage célèbre, Economics, qui est un manuel qui a connu une diffusion énorme, dans les années récentes, 90% des économistes américains ont cessé d'être des économistes keynésiens ou anti-keynésiens. Au lieu de cela, ils ont travaillé à une synthèse de ce qui était valable dans la vieille économie et dans les théories modernes de la détermination du revenu. Le résultat pourrait être appelé l'économie néoclassique et est accepté dans ces lignes très larges par tous, sauf peut-être 5% des écrivains d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc, d'une certaine manière, le keynésianisme, c'est implanté, mais c'est implanté de pair, en parallèle avec d'autres éléments. Et si Paul Samuelson peut être décrit comme un auteur plutôt keynésien, en tout cas en ce qui concerne la politique conjoncturelle, Milton Friedman, qui est son contemporain, était lui dans le camp opposé, le camp dit monétariste, donc un camp libéral par rapport au camp de ceux qui défendaient une politique conjoncturelle active. Mais Milton Friedman ne dit pas quelque chose de très différent. Dans une lettre au magazine Time de 1966, il écrit, pour préciser, parce que Time lui avait dit que, avait cité une partie de sa phrase, la première, et il a dit non, attention, tout ce que je veux dire, c'est que dans un sens, mais dans un sens seulement, nous sommes tous des Keynésiens aujourd'hui, dans un autre, personne n'est plus un Keynésien. Donc on a d'une manière un peu plus négative ici, mais la même idée. Bon. Il y a eu cette période jusqu'au début des années 70, c'est une période de grand débat sur le plan politique et en partie un peu moins théorique, sauf sur des questions qui sont relativement techniques, sur la manière, sur les conséquences d'une politique monétaire, d'une politique budgétaire, mais la vision générale, la manière d'approcher l'économie n'est pas fondamentalement différente. Milton Friedman se considère de ce point de vue-là comme un keynésien et... jusqu'au début des années 70. Il y a des débats, mais il y a une incorporation du keynésianisme. Mais en même temps, on a eu tendance à oublier un certain nombre de messages centraux de la théorie générale, comme on va le voir. Au début des années 70, il y a un changement de cap avec ceux qui sont un peu l'héritier des monétaristes, mais qui sont une nouvelle génération, plus combative, qui se sont appelés les nouveaux classiques. Et là, la vision qu'ils ont de Keynes est beaucoup plus négative. Et je vous donne ici une citation qui est récente, mais j'aurais pu chercher des citations du début des années 70, de Robert Lucas, en se référant à son éducation keynésienne. Et alors, il dit carrément ceci, la contribution effective de Keynes n'est pas une théorie du niveau d'Einstein, pas un nouveau paradigme et tout cela, c'est juste du vent. En écrivant la théorie générale, Keynes se voyait lui-même comme le porte-parole d'une profession discréditée, dans une situation où les gens étaient prêts à jeter l'éponge en ce qui concerne le capitalisme et la démocratie libérale et à se lancer dans les bras du fascisme, du corporatisme, du protectionnisme, de la planification socialiste. Il était un activiste politique du début jusqu'à la fin. Donc, la théorie générale, c'est un livre de politique qui a un rapport avec l'économie. Ce n'est pas un ouvrage de théorie. Ça, c'est une position beaucoup plus forte. Et c'est à partir de cette époque qu'on a commencé à dire et à écrire que Keynes est mort et que ça appartient au passé, mais qu'on n'a pas grand-chose à en retirer, donc ça ne vaut pas la peine de revenir en arrière. C'est en ce sens-là déjà que le titre de « Keynes est-il de retour ?» a un sens. Hein. C'est parce que là, on avait bien mis de côté. Luke, c'est dans le camp anti-keynésien, quand libéral. Mankiw était un auteur qui a été un des principaux représentants dans le début des années 80 du mouvement opposé, dit des nouveaux keynésiens, mais il ne dit pas grand-chose de très différent, puisqu'il écrit, en dépit de sa contribution remarquable, la théorie générale est un livre obscur. Je ne suis pas sûr que Keynes lui-même ait complètement su ce qu'il voulait dire. En plus, après 50 ans de progrès additionnels en sciences économiques, la théorie générale est un ouvrage dépassé. L'idée que la théorie générale est un livre obscur est une idée très courante chez beaucoup de mes collègues, que c'est un livre mal écrit. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que c'est un ouvrage qui est plutôt bien écrit et pas tellement obscur, même s'il se dérobe à une première lecture en grande partie, mais je pense que je ne suis pas d'accord du tout avec ce point de vue. Le retour, c'est en grande partie... l'émergence de la grande récession et comme on le savait depuis Keynes que l'économie keynésienne était l'économie de la dépression, c'est naturel de se tourner vers Keynes de nouveau. Et vous avez dû voir passer dans les journaux, je ne l'ai même pas ici, la fameuse citation décrivant l'économie comme une économie de casino, etc. Bon, ces idées, évidemment, viennent à propos après la crise financière qu'on a connue récemment. Et donc, c'est naturel de penser à Keynes de ce point de vue-là. La citation que je vais vous présenter, que je vous présente maintenant, c'est un peu différent, c'est intéressant, parce que c'est une citation de Richard Posner, qui est un des fondateurs du courant dit de loi, droit et économie, donc la jonction du droit et de l'économie. Il est juge en cours d'appel aux États-Unis et professeur à Chicago. Il est dans le milieu, il est un économiste, il n'est pas vraiment, il est un juriste plutôt, qui s'est intéressé à l'économie de près. C'est une figure plutôt conservatrice et qui a enseigné dans le milieu de Chicago, qui était très largement dominé par justement le courant libéral. Et c'est intéressant parce que de voir ce qu'il dit. Il a dans une interview, il a dit que pour comprendre quelque chose à la crise, il a essayé de lire ce qu'écrivaient ses collègues de Chicago, et puis il n'avait pas trouvé quoi que ce soit qui l'éclaire, et qu'il a décidé d'aller lire la théorie générale, et que là, il a appris beaucoup de choses. Et ce qu'il dit ici, c'est quelque chose d'intéressant, parce que il oppose des économistes valrasiens, donc ceux du courant de ses collègues de Chicago. Et les économistes valrasiens, dit-il, ne sont pas loin d'affirmer qu'en réalité, il n'y a pas de cycle économique du tout. Que ce qui ressemble à un cycle d'expansion en récession n'est rien d'autre qu'une réaffectation normale de l'activité économique en réponse à des chocs technologiques ou autres. Ce qui peut, par exemple, déplacer des travailleurs de la production sur le marché à la production domestique, bricolage, loisirs, etc., les activités des travailleurs qui, dans le parler ordinaire, sont appelés chômeurs. Et en face, il y a l'économie de Keynes qui, à cause de son réalisme, paraît particulièrement utile à la compréhension du déséquilibre général, le cycle économique, et de l'équilibre général inefficace. Donc, une position tout à fait opposée et où, effectivement, le rôle théorique de Keynes réapparaît affirmé par quelqu'un dont on ne pouvait pas imaginer auparavant qu'il allait prendre une position de ce type. Bon, moi, je vais commencer. Je vais parler un peu de l'ouvrage. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de l'ouvrage et je vais mettre l'accent sur des choses sur lesquelles on ne met pas trop l'accent, à savoir tout de suite ce qui est écrit dans le chapitre 2, qui est un chapitre sur lequel on saute rapidement. Et dans le chapitre 2, Keynes fait une distinction qui a été très largement passé sous silence, souvent, qui est la distinction entre chômage volontaire et involontaire. Et je vais essayer de vous convaincre que cette distinction est importante. Et donc, il y a... Et que la théorie générale, d'une certaine manière, c'est un ouvrage qui vise à démontrer la possibilité d'existence d'un chômage involontaire. Et un tout petit peu plus, ce qu'on pourrait imaginer de faire en réaction à l'existence d'un chômage volontaire, encore que ce n'est pas un ouvrage vraiment qui soit très prolixe en matière de politique économique. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans la théorie générale. Donc, regardons de plus près cette histoire de chômage involontaire. Involontaire, ça, contre quelle volonté le chômage keynésien est-il involontaire ? Alors, ce que Keynes nous dit, c'est important, c'est dans cette phrase, les conclusions classiques s'adressent, il faut le rappeler, à l'ensemble du corps des travailleurs, hein, et ne sont pas conçues pour un individu isolé qui pourrait obtenir un emploi en acceptant une coupe de son salaire monétaire que ses camarades refusent. Alors ça, c'est un point important, c'est que la dénomination volontaire ou involontaire ne qualifie pas un comportement d'un individu. C'est un comportement d'une collectivité. Alors, Robert Lucas, que je viens d'évoquer, a beaucoup critiqué l'usage du concept de chômage involontaire en faisant une interprétation entièrement basée sur le comportement individuel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il ne s'agit pas du comportement d'un individu. Je ferai un commentaire plus tard sur ce point. Et alors, quelle est l'idée d'involontaire? En quel sens est-ce que le chômage involontaire serait un chômage involontaire? Serait involontaire? Il se peut qu'il n'y ait pas de méthode disponible pour le travail, dans son ensemble, par laquelle il puisse ramener le niveau général des salaires monétaires en conformité avec la désutilité marginale du volume courant d'emploi. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas, traduit autrement, il n'y aurait pas de méthode par laquelle l'ensemble des travailleurs pourrait se situer, se placer sur ce qu'on appelle la coupe d'offre de travail. Il se peut qu'il n'existe aucun expédient par lequel le travail, dans son ensemble, toujours, puisse réduire son salaire réel, donc le salaire déflaté par le niveau des prix, à un niveau, à un chiffre donné, en renégociant des salaires monétaires avec les entrepreneurs. Donc, même si les syndicats, pour être clair, essayent d'obtenir une baisse des salaires réels afin d'augmenter l'emploi et de résorber le chômage involontaire, il se peut qu'ils ne le puissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vont baisser les salaires. L'idée, c'est qu'ils vont baisser les salaires, mais vont provoquer des chutes de prix qui peuvent être encore plus importantes, et donc le salaire réel, à la limite, peut augmenter au lieu de diminuer. Ça, c'est l'idée générale. Alors, voyons les choses de manière technique. Je ne vais pas vous lancer des équations, mais quand même quelques diagrammes. Dans le chapitre 2, toujours, qui s'appelle les postulats de l'économie classique, il y a deux postulats. Alors, le premier postulat, le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle une condition de premier ordre de la maximisation du profit. Les entreprises, en maximisant les profits, vont faire en sorte que le salaire soit égal à la productivité marginale du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils n'iront pas au-delà. La productivité marginale du travail est censée être décroissante. Si les entreprises allaient plus loin dans l'absorption de main-d'œuvre, en créant des emplois au-delà de cette égalité, ben elles y perdraient parce que la productivité d'un travailleur supplémentaire serait inférieure à ce qu'il coûterait sous forme de salaire. Et donc, ce postulat détermine ce qu'on appelle la demande de travail, et ce que dit le postulat de l'économie classique tel que le présente Keynes, c'est tout simplement que le premier postulat nous dit qu'on est sur une coupe de demande de travail. Et le deuxième postulat, c'est l'utilité du salaire à un niveau donné de l'emploi, est égal à la disutilité marginale de cette quantité d'emploi. Alors ça, c'est le symétrique, vu maintenant du côté des travailleurs. Les travailleurs, bon, un travailleur individuel, en supposant que la désutilité du travail croisse au fur et à mesure qu'il augmente les heures de travail, bon, il s'arrêtera quand la désutilité qu'il obtient d'une heure de travail supplémentaire est supérieure à ce qu'il obtient à travers le salaire, à supposer évidemment qu'il y a une possibilité de déterminer la durée de travail, mais on peut aussi raisonner sur l'ensemble des travailleurs. Il y a des travailleurs plus paresseux et d'autres moins paresseux. Il y en a pour qui la désutilité du travail est plus grande, et la situation à laquelle se réfère ce postulat, c'est celle où il n'y a plus de travailleurs, qui est une des utilités au plus égale au salaire. Donc, au-delà, les travailleurs qui ne sont pas, qui ont une désutilité au-delà, ben, ils ne sont pas, ils ne sont d'ailleurs pas chômeurs, ils décident de ne pas participer à la population active. Donc là, ce postulat nous donne une courbe d'offres de travail. Et donc nous avons, dans une représentation très classique, où nous avons du marché du travail, où nous avons le niveau d'emploi en abscisse, noté N, et le salaire réel, le salaire nominal W divisé, déflatté par le prix en ordonnée, nous avons une courbe de productivité marginale décroissante, censée être décroissante, qui est aussi la demande de travail en concurrence parfaite. Et nous avons une courbe d'offres de travail qui, elle, est croissante. Et donc, les deux postulats nous disent on est sur la courbe de mon travail, on est sur la courbe d'offres de travail, donc on est au point d'intersection. Et voilà, et si on est au point d'intersection, on est en équilibre et il n'y a pas de chômeur. Bon, ça, c'est le point de départ. Alors, s'il y a du chômage, comment est-ce qu'on fait apparaître du chômage dans cette manière d'aborder, dans cette modélisation du marché de travail? Ben, la première idée, c'est de dire, ah oui, mais il y a une demande, il y a une offre, mais les demandeurs et les offreurs de travail ne se rencontrent pas toujours parce qu'il y a une information imparfaite. Et donc, il se peut qu'il y ait des demandes d'emploi non satisfaites, des offres d'emploi non satisfaites, et donc il y ait quelque chose comme qui apparaît dans cette courbe. On est à une certaine distance de la plus petite des deux branches, hein. La branche, la demande de travail, au-dessus du salaire d'équilibre, la branche d'offre de travail en dessous, et puis vous voyez, là j'ai tracé en rouge un segment qui représente au taux de salaire réel d'équilibre l'existence d'un certain volant de chômage qui correspond à la fois à des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas ou ne trouvent pas immédiatement un poste et à des offres d'emploi qui ne trouvent pas de preneurs. Bon, le chômage frictionnel est évoqué par Keynes et mis de côté, ce n'est pas son thème. Hein. Donc, il existe, bien entendu, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'analyse du chômage frictionnel est, je n'ai pas fait de statistiques exactement, mais ça doit être actuellement l'approche la plus populaire, si vous voulez, du chômage dans les modèles macroéconomiques où le chômage apparaît. Parce qu'il y a beaucoup de modèles macroéconomiques, le chômage n'apparaît pas du tout, il n'y a pas de chômage. Ben là où il apparaît, généralement, c'est du chômage de ce type, du chômage frictionnel. La manière dont Keynes présente les postulats est un peu plus subtile que cela, puisqu'il introduit dans les deux formulations, je ne vais pas vous embêter avec des citations chaque fois, il introduit des éléments de concurrence imparfaite. Des éléments de concurrence imparfaite, la concurrence imparfaite apparaît là où il y a un certain pouvoir de marché. Ici, par exemple, le pouvoir de marché des entreprises sur le marché des produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont en mesure de fixer des marges de profit au lieu de faire de pratiquer un prix comme en concurrence parfaite qui est égal au coût marginal. Il y aura un coût marginal plus une certaine marge. Et donc, au lieu d'avoir une courbe de demande de travail qui est déterminée immédiatement par la productivité marginale du travail, on sera en dessous parce que le prix va être supérieur au coût marginal et donc nous aurons une courbe qui sera plus basse ou, si vous voulez, qui sera plus à gauche, ce qui pourrait être interprété d'une manière suivante. Les entreprises à un prix donné ne vont pas aller jusqu'au bout de ce qu'elles pourraient vendre à ce prix donné parce qu'en faisant de la rétention, elles peuvent exercer un pouvoir de marché. Donc, il y a en quelque sorte une rétention volontaire pour obtenir l'exercice du pouvoir de marché. De même, pour l'offre de travail, il y a un pouvoir de marché exercé par les syndicats, parfois par les entreprises aussi. Et donc, ici, prenons le cas simple où où ce sont les syndicats qui exercent un pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'il y aura cette fois-ci une marge sur le salaire monétaire et la coupe d'offres syndicale, si on peut dire, de travail est au-dessus et à gauche de la coupe correspondant à l'offre de travail concurrentielle. Autrement dit, la courbe à droite est la courbe qui traduit le comportement individuel des travailleurs et la courbe à gauche, celui qui résulte de l'action syndicale. Et une manière de voir les choses, il y en a plusieurs, mais une manière de voir les choses, c'est de se dire que quand on adhère à un syndicat, on achète une loterie et que si on tire le bon numéro, on va avoir un salaire qui est plus élevé que s'il n'y avait pas de syndicat du tout. Et si on a le mauvais numéro, eh ben, on se trouve au chômage et qu'il y a un élément de ce type donc, qui est incorporé, qui est, c'est comme une prime de risque qui est incorporée dans le comportement. Et donc, il y a un certain nombre de travailleurs qui peuvent se trouver effectivement en situation de chômage. Et nous avons ici ce que Keynes appelle le chômage volontaire. Au niveau d'équilibre du marché du travail, qui est donné par, l'intersection des coupes oméga 1, demande de travail, oméga 2, offre de travail, à ce niveau-là, il y a un excès sur l'offre de travail, c'est-à-dire qu'il y a des chômeurs qui, individuellement, sont involontairement au chômage, involontairement, ils aimeraient bien travailler, mais collectivement, on peut se dire qu'ils ont assumé ce risque en entrant dans le syndicat, et donc ils sont des chômeurs volontaires dans ce sens-là. Et ce qu'il dit exactement, c'est que le second postulat est compatible avec du chômage volontaire dû au refus ou à l'incapacité d'une unité de travail, d'un individu, donc, comme résultat de la législation, salaire minimal, des pratiques sociales, ou de l'association pour une négociation collective, donc l'activité syndicale, ou d'une réponse lente au changement, inertie, ou à la simple obstination humaine d'accepter une rémunération correspondante à la valeur de produit attribuable à la productivité marginale. Donc il y a toutes ces causes-là qui conduisent à un chômage volontaire. Alors, comment fait-on apparaître dans ce schéma-là le chômage involontaire? Alors, dans la coupe de demande de travail, on a dit les entreprises embauchent jusqu'à, etc. Alors, ces choix des entreprises est fait sur la base d'anticipations que Keynes appelle des anticipations à court terme. Notamment, les entreprises anticipent un certain niveau des prix dans leur secteur ou dans d'autres branches qui sont en rapport avec la branche où elles fonctionnent. Elles anticipent aussi un certain niveau de la demande. Est-ce que ces anticipations sont justes? Alors là, il faut confronter les anticipations à ce qui se passe sur les marchés des produits. On n'a pas encore parlé des marchés des produits. Et les marchés de produits doivent apparaître ici. Le modèle doit être clos par l'introduction des marchés des produits. Alors, la manière classique de résoudre le problème, c'est la référence à ce qu'on appelle la loi de Say. L'offre crée sa propre demande, ne vous préoccupez pas, il suffit d'offrir pour qu'une demande s'en suive, parce qu'en offrant un produit, les entreprises paient des salaires, des intérêts, des dividendes, etc., qui vont engendrer directement ou indirectement une demande capable ensuite d'absorber ce qu'on produit. Évidemment, Keynes va contester la validité de cette loi, et sa solution, c'est le principe de demande effective, et c'est l'idée, demande effective, c'est l'idée que la demande qui détermine le niveau d'emploi doit être alimentée par une demande sur les marchés de produits, une demande réalisée sur le marché des produits, qui se réalise sur le marché des produits. Et donc, nous devons introduire, en fait, dans ce schéma, une autre courbe, c'est une manière de le faire, la demande effective de produits, c'est-à-dire que j'ai tracé de manière comme une courbe croissante. Pourquoi ? Parce que s'il y a une baisse du niveau général des prix, une baisse de P, et donc une augmentation du salaire réel à salaire donné, à salaire nominal donné, vous avez, parce que les prix sont plus bas pour toute une série de raisons que je ne vais pas détailler maintenant, il va y avoir une augmentation de la demande, et donc vous avez, pour répondre à cette demande, une augmentation de l'emploi. Donc cette courbe est croissante, et elle va déterminer par son intersection avec la courbe de demande de travail, oméga 1, elle va déterminer un certain point d'équilibre qui n'est plus le même d'avant. Ce n'est plus le point d'équilibre qui résulte de l'intersection de la courbe de demande de travail et d'offre de travail. Et donc, nous avons maintenant place pour, non seulement le chômage volontaire, il continue à exister, mais à un chômage involontaire qui est dû à l'écart entre cette courbe de demande effective et la courbe d'offre syndicale de travail. Donc il y a deux types de chômage qui se cumulent, le chômage volontaire et le chômage involontaire, dans le sens précis de Keynes. Est-ce que le mot est bien choisi? Bon, là on pourrait discuter, mais l'idée, elle, est relativement claire. Alors, on peut avoir une situation qui est symétrique de celle-ci. Il se peut que la courbe de demande effective, au lieu d'être à gauche du point d'intersection qui représentait l'équilibre sur le marché du travail, on ait une courbe à droite, et là, il y aura une situation qui n'est pas une situation de sous-emploi, mais une situation de suremploi. Alors, ici, c'est important de rappeler quelque chose qui est généralement dit et qui correspond au moins partiellement à la réalité, c'est qu'il y a une asymétrie postulée par Keynes entre le comportement des salaires à la baisse et à la hausse. Pour l'instant, je ne développe pas. Si les salaires sont rigides à la baisse, il n'y a pas de tendance de la courbe à aller vers la droite quand il y a des situations de chômage involontaire, de sous-emploi. Mais par contre, ici, on a une situation où il y a un rappel qui pousse immédiatement la courbe vers la situation de plein emploi. Alors, la généralisation de la théorie générale, elle est là en quelque sorte, c'est que selon la théorie classique, on devrait avoir une situation où les trois courbes, oméga 1, oméga 2 et oméga ED, devraient toujours se couper au même point, avec donc des mécanismes de rappel qui poussent la courbe de demande effective, ou les autres d'ailleurs, de telle manière qu'il y ait une intersection, donc éliminant toute forme de chômage involontaire. Et la position de Keynes, c'est que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas nécessairement cette force de rappel quand on est en situation de chômage involontaire. Et pourquoi pas? Et ce sont les 17 chapitres qui suivent qui vont répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il un blocage? Pourquoi il n'y a pas une stabilisation sur le niveau de plein emploi? Point de vue terminologique, il est important de... Le plein emploi, c'est l'absence de chômage involontaire. Donc, cette situation qui correspond, on est sur la courbe de demande d'offre et la courbe d'offre de travail en même temps. On satisfait les deux postulats. Mais c'est compatible avec beaucoup, beaucoup de chômage volontaire. Le plein emploi, ce n'est pas l'absence de chômeurs, c'est l'absence de chômeurs involontaires. Ça va avoir évidemment son importance par la suite. Donc, pourquoi pas? La situation de plein emploi que suppose la théorie classique étant un point limite des situations possibles d'équilibre sous-emploi, j'ai déjà cité. Donc, nous avons effectivement, à gauche, sur la courbe de demande effective peut se placer n'importe où, donc nous avons un continu de points possibles, mais à un certain moment, compte tenu d'un certain état des anticipations des entrepreneurs, notamment principalement les anticipations à long terme qui déterminent le niveau d'investissement, vous avez la sélection d'un point particulier et qui ne tend pas forcément à se corriger et compte tenu de ce que je vais dire par la suite. Donc, s'il n'y a pas de mécanisme stabilisateur suffisant, il y a, ça c'est une autre remarque qu'on peut faire, il y a place pour une politique régulatrice de la demande effective. Et donc, la politique économique commence là, où a justement une absence de force de rappel. Bon, la symétrie, j'ai déjà mentionné, mais il y a une conclusion importante, c'est que si on met en place une politique keynésienne, avec tous les guillemets que vous m'accorderez, de politique de lutte contre le chômage volontaire, si on traite le chômage volontaire comme s'il était involontaire, c'est-à-dire en faisant de la stimulation de la demande, qu'est-ce qui va se passer ? Compte tenu du fait qu'il y a cette asymétrie, les salaires vont augmenter et vont recréer systématiquement le même niveau de chômage. Et donc, on n'aura pas corrigé le chômage, mais on aura créé de l'inflation. Donc, on est déjà en plein emploi, quand le chômage n'est que volontaire, on est en plein emploi, et si on fait une politique de ce type, ben, on crée de l'inflation, et donc on est dans une situation qu'on est venu appeler stagflation, et qui n'est pas tellement problématique pour la théorie générale, qui est implicite dans la manière dont Keynes traite le problème. Et c'est intéressant de voir qu'en 1937, dans un article qui est écrit pour le Times, il dit « Je crois que nous sommes en train d'approcher, que nous avons déjà atteint le point où il n'y a plus un grand avantage à appliquer une stimulation générale supplémentaire au niveau central, c'est-à-dire il ne faut plus continuer à faire de la politique keynésienne parce qu'on est déjà en plein emploi. » Au moment où il écrit, il y avait 1,5 million de chômeurs en Angleterre, un taux de chômage qui était supérieur à 10%. Et il considérait qu'on était en plein emploi. Alors, voyons quand même, chômage involontaire. Vous avez bien dit involontaire. Alors, il nous a déjà dit qu'il se peut qu'il n'y ait pas d'expédient par lequel le travail puisse provoquer une réduction du salaire réel en diminuant le salaire monétaire. Mais son collègue Hawtrey, dans une lettre de 1936, lui écrit « Si le chômage doit être regardé comme involontaire, il doit être tel qu'une réduction des salaires ne lui porte pas de remède, bien sûr. » C'est-à-dire que sinon, il n'est pas vraiment involontaire. Alors, les variations de salaire monétaire. C'est en 1930 déjà, dans l'autre ouvrage théorique de Keynes, A Treatise on Money, que Keynes a fait une distinction qui est relativement importante entre les ajustements salariaux spontanés. Les ajustements salariaux spontanés, ce sont les ajustements qui répondent aux différences entre les salaires effectifs ou les niveaux d'emploi effectifs, et ceux qui étaient ciblés par les syndicats. C'est-à-dire que si le salaire effectif est en dessous du salaire qui est visé, ben le syndicat va essayer de provoquer un ajustement à la hausse, vice-versa, si c'est peut-être moins clair, mais si les salaires effectifs est en dessous, ce qui veut dire que le niveau d'emploi est insuffisant, donc il va y avoir une correction. Donc ce sont les ajustements salariaux spontanés. Et puis il y a des ajustements salariaux induits. Et c'est une réponse au changement des niveaux d'emploi effectifs, c'est-à-dire ce sont des changements qui interviennent au moment de l'embauche ou du débauchage et qui sont essentiellement de la responsabilité, si je peux dire, des entreprises qui vont augmenter les salaires pour embaucher et diminuer en période d'ébauchage, indépendamment de la situation, indépendamment de la situation de tension effective sur le marché du travail. Seulement parce qu'il y a un mouvement, et ce qui correspond, pour ceux qui connaissent la courbe de Phillips, à des boucles qui ont été observées autour de la courbe de Phillips, ce qu'on appelle la dérive salariale. Alors, il y a une première forme de problème de coordination qui apparaît déjà au niveau du marché du travail et qui est exposé tout de suite dès le chapitre 2, puis développé dans le chapitre 19. C'est-à-dire que la première difficulté pour un ajustement des salaires, c'est que les salaires sont négociés de manière décentralisée. Et il nous dit, excepté dans une communauté socialisée, dans laquelle la politique salariale est déterminée par décret, il n'y a pas de moyen d'assurer des réductions de salaire uniformes pour toutes les classes de travailleurs. Et comme on ne peut pas le faire, comme il y a une décentralisation des mécanismes de formation des salaires, l'effet de l'association d'un groupe de travailleurs est plutôt de protéger leur salaire relatif que le salaire réel absolu, et qui, lui, va dépendre d'autres formes du système économique. D'autres forces du système économique. Donc, ceci détermine une possibilité de rigidité à la baisse des salaires monétaires, puisqu'on serait bien d'accord pour une baisse des salaires monétaires, mais on n'est pas d'accord pour avoir pour un salaire moindre que le salaire qui est pratiqué à côté. Pourquoi ? Parce qu'en grande partie, les syndicats, ils vendent du travail aux entreprises, mais ils achètent du travail aux travailleurs. Ils sont aussi dans une position d'acheteur. Et donc, ils sont dans la même situation qu'une entreprise qui va pas vouloir nécessairement, qui aimerait bien avoir des prix plus élevés, mais qui n'est pas en condition d'avoir des prix supérieurs aux prix qui sont pratiqués à côté. Il y a un problème de compétitivité, et ici, il y a un problème de compétitivité entre syndicats, et donc, il y a une tendance à protéger les salaires relatifs. Donc, cela crée une certaine asymétrie, justement, parce que dans l'autre sens, ça marche. Et il y a aussi, puisqu'il y a deux types d'ajustements des salaires, pour ce qui est des ajustements induits, il y a une déconnexion entre ce qui est observé, qui est lié au mouvement de la conjoncture, et pas forcément à l'ampleur du déséquilibre sur le marché de travail. Autrement dit, on peut avoir beaucoup de chômeurs et ne pas avoir beaucoup de mouvements des salaires, et au contraire avoir une situation de peu de chômage, mais où il y a des baisses de salaires, parce que tout simplement l'économie est en récession et qu'il y a une diminution de l'activité. Et puisqu'on parle de diminution d'activité, de déflation salariale, Keynes met en avant, et c'est un argument important, l'effet déstabilisateur d'une déflation salariale, parce que si les agents tendent à extrapoler les variations de salaire monétaire dans leurs anticipations, déflationnistes, donc ils pensent que le salaire va continuer à baisser, cela peut déstabiliser l'économie, provoquer encore une déstabilisation supplémentaire, et la rigidité des salaires monétaires serait dans ce cas la bienvenue, ce qui est le point de vue de Keynes. Pourquoi déstabilisation ? Parce que, comme il nous dit, l'effet d'une anticipation des salaires, que les salaires vont continuer à baisser de, disons, 2% dans l'année qui vient, était grossièrement équivalente à l'effet d'une augmentation de 2% de l'intérêt payable dans la même période. Donc, en fait, c'est le taux d'intérêt réel qui augmente, et donc cela va décourager l'investissement. Donc, c'est très mauvais de laisser les salaires et les prix, bien sûr, baisser, et s'engager dans un mouvement déflationniste. Un autre effet négatif, c'est qu'une diminution des salaires va augmenter, suivie d'une augmentation des prix, bien entendu, va augmenter la charge de la dette des entreprises et déterminer une augmentation des risques de faillite. Donc ça, c'est les points importants. Et donc, pourquoi un mécanisme naturel d'ajustement en présence de chômage involontaire peut fonctionner mal et peut ne pas être le bienvenu à cause de ces phénomènes d'augmentation de la charge de la dette des entreprises, puisque les dettes sont fixées en termes nominaux, si les prix baissent, donc en termes réels, la dette augmente. Et aussi parce que les anticipations vont extrapoler une tendance et donc déterminer une augmentation du taux d'intérêt réel anticipé. Mais les défauts de coordination qui sont mis en avant dans la théorie générale ne sont pas simplement sur le marché du travail, mais sont généraux, et je vais évoquer les principaux. D'abord, les anticipations des consommateurs épargnants et des entrepreneurs investisseurs ne sont pas suffisamment coordonnées par le système de marché financier, qui est incomplet. Et là, nous trouvons l'idée du dîner à journée dans le chapitre 16, où Keynes évoque c'est une sorte de parabole. Si je décide d'ajourner un dîner aujourd'hui, je diminue la demande du restaurant et je n'en vois pas, parce qu'il n'y a pas de marché où je ne vais pas nécessairement passer une commande d'un repas futur ou d'une paire de chaussures que je veux acheter dans le futur. Donc il y a un effet de diminution de la demande d'aujourd'hui qui n'est pas compensée par une augmentation de la demande de demain qui induirait une augmentation de l'investissement. Donc, si l'épargne consistait dans l'abstention, pas simplement dans l'abstention de la consommation présente, mais dans une commande simultanée spécifique de consommation future, l'anticipation d'un revenu futur de l'investissement serait améliorée, l'anticipation serait améliorée, et les ressources qui sont rendues libres, sont libérées pour la préparation de la consommation présente, pourraient être tournées vers la préparation de la consommation future. Alors, ce n'est pas ça ce qui se vérifie. Au contraire, ce qu'il dit, c'est que la diminution de la demande aujourd'hui a tendance à diminuer, à rendre plus pessimistes encore les investisseurs et donc à créer un phénomène qui rend le problème encore plus difficile. Et puis les marchés financiers sont inefficaces. Sa coordination des anticipations est souvent calée sur celle des spéculateurs et divorcés des fondamentaux. Et beaucoup d'investisseurs professionnels et spéculateurs professionnels sont en fait largement concernés non par des prévisions à long terme de meilleure qualité sur le revenu probable d'un investissement sur toute la valeur de sa vie, mais avec la prévision de modification dans la base conventionnelle de valuation à court terme du public général. C'est-à-dire, pour utiliser les termes utilisés par Roger tout à l'heure, nous n'avons pas une référence à la valeur fondamentale. Nous avons ici une référence à une valeur qui est la valeur de court terme qui est déterminée sur le marché. Et je vais finir sur le concours de beauté, qui est une parabole importante qui est introduite dans le même chapitre. Et le concours de beauté, c'est un de ces concours qui était largement pratiqué, paraît-il, à cette époque, et que j'ai encore connu dans mon enfance, où il y avait... on demandait au lecteur d'un journal de hiérarchiser ou de choisir le visage, la figure la plus belle. Et il y avait un gagnant. Le gagnant est celui dont l'opinion était la plus proche de l'opinion de l'ensemble des lecteurs, de l'opinion moyenne. Et donc, ce que dit Keynes, c'est qu'il ne s'agit alors plus de choisir ces visages qui sont réellement les plus beaux d'après selon notre meilleure opinion possible, même pas ceux dont l'opinion moyenne pense qu'ils sont effectivement les plus beaux. Nous avons atteint le troisième degré où nous consacrons notre intelligence à anticiper ce que l'opinion moyenne anticipe que sera l'opinion moyenne. Et je suppose qu'il y en a qui pratiquent le quatrième, cinquième degré et encore au-dessus. Et là, on est effectivement dans le domaine. On pourrait recommencer maintenant en parlant des bulles. Et donc, c'est une bonne occasion de finir. Je vous remercie. Merci.